l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Bourdeuil, 94.
Soyez les bienvenus. Présence midi en direct jusqu'à 13h. Nous sommes très heureux de vous accueillir durant votre pause déjeuner avec toute l'équipe de Présence midi. Et dans l'équipe aujourd'hui, eh bien, nous recevrons Anne Lasserre. Et avec Anne Lasserre et Philippe Subercase, nous retournerons en 1858 pour écouter cet auteur qui s'appelle Charles Richard. Charles Richard qui a parcouru les Pyrénées d'ouest en est. On va écouter son récit aux alentours de 12h50. Dans un instant également, sœur Véronique Magran, qui était à la tête de la Coref pendant 9 ans, sera au micro d'Anne-Rose Jankovic. Et puis, dans quelques minutes également, direction Bayonne pour évoquer l'agenda du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Un agenda assez chargé qui nous sera détaillé dans un instant par Violaine Ricourdume. Mais pour le moment, je laisse la place à Mathis Saint-Tenac de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse pour les titres à la une de l'actualité régionale.
À Biars-sur-Cère, dans le Lot, Didier Pouche signe son retour en politique en lançant une liste divers gauches de 18 candidats. Cette annonce intervient à l'approche des municipales 2026. À Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, le basketteur Mike Joseph est condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis pour trafic de drogue. Il devra purger sa peine en Guyane sous bracelet électronique. À Nègrepelisse, dans le Tarn-et-Garonne, l'association Sine Qua Non organise ce dimanche une marche et une course ouverte à tous contre les violences sexistes et sexuelles. Dans le Tarn, le Gaillac Primeur 2025 arrive ce jeudi avec 500 000 bouteilles et un week-end d'animation. À Orlu, en Ariège, la commune recherche un nouvel exploitant pour son gîte d'étape. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 5 décembre. En Haute-Garonne, enfin, le premier épisode hivernal apportera de la neige dès 300 mètres d'altitude ce jeudi, tandis que Toulouse restera sans flocons malgré le froid.
Merci Mathis Saint-Tenac de l'ISJT. On vous retrouve tout à l'heure à 12h30 pour développer ce journal pour développer ses titres dans le journal. Dans un instant, en direction Bayonne pour retrouver Violaine Ricourt-Dumas. C'est la responsable de la communication pour ce diocèse. On va détailler l'agenda et on parlera notamment de la prochaine édition des JMJ du diocèse de Bayonne. Les prochaines JMJ diocésaines auront lieu ce week-end. Ça va se passer à Biarritz. On va en parler dans un instant avec Violaine.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous.
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Présence à Cajarc, 97.7.
Bonjour Violaine Ricourt-Dumas.
Bonjour Ville, bonjour à tous.
On vous retrouve chaque semaine pour évoquer l'agenda du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. L'agenda béarnais nous amène pour débuter à Pau avec le cycle Foi et Culture qui nous propose une conférence qui s'intitule « Faire corps ».
Tout à fait, c'est dans le cadre d'un cycle sur le corps, donc qui est un cycle de conférences qui a lieu toute l'année. C'est organisé par Foi et Culture et par les paroisses du nord de Pau. Et cette conférence, donc demain soir, sera donnée par le père Michel Garat, qui est curé à Bayonne et qui est également bibliste, qui va nous parler de faire corps, devenir membre d'un peuple à la croisée de deux cultures. Donc ça sera une conférence qui aura lieu à Pau. C'est toujours à l'église Saint-Paul, 262 boulevard de la Paix, de 20h à 22h. À noter qu'on peut réécouter cette conférence parce qu'elle est enregistrée. On peut aller après sur le site Foi et Culture 64, mais c'est toujours mieux de venir en réel, bien sûr, pour venir écouter le père Michel Garat, donc demain soir à 20h à l'église Saint-Paul de Pau.
Votre diocèse organise des JMJ diocésaines. La prochaine édition, eh bien, c'est ce week-end et ça va se passer à Biarritz.
Tout à fait, c'est pour tous les jeunes à partir de 16 ans à peu près qui veulent revivre cet esprit JMJ, jubilé, ils ont vécu cet été, donc le jubilé à Rome, ils ont vécu souvent les JMJ au Portugal. Donc là, c'est une édition diocésaine. En fait, chaque année, au moment de la solennité du Christ roi, les diocèses sont invités à fêter ces journées diocésaines des jeunes. Ce sera à Biarritz, sur la plage, on espère que le temps sera avec nous, donc samedi et dimanche. Un événement donc pour tous les jeunes du diocèse. Ils ont été prévenus, bien sûr, via les réseaux sociaux, mais on peut prier pour eux, être en communion avec eux pour ce week-end, donc journée diocésaine des jeunes à Biarritz.
Autre rassemblement, ce sont les CM1 et les CM2 catéchisés qui vont se rencontrer ce 22 novembre en présence de l'évêque Mgr Marc Caillé.
C'est le service diocésain de la catéchèse qui propose chaque année cette grande journée diocésaine donc pour tous les enfants de CM1, CM2. Alors certains se préparent à la première communion, d'autres se préparent à la confirmation. Ils sont en tout cas tous invités pour être témoins de Jésus avec leur évêque. Ce sera à l'Institut Saint-Dominique à Pau, avenue Fouché, donc pour cette grande journée diocésaine, tous les CM1 et CM2 du diocèse.
Autre événement dans le diocèse de Bayonne-Lescarréau-Laurent, c'est le centre spirituel jésuite Côte-Pays qui propose une journée à désert. C'est ce week-end et ça va se passer à Urth.
C'est toute la journée de samedi, alors une journée désert, on voit bien ce que ça veut dire, c'est prendre le temps de lâcher prise, de ne plus penser à tous ces soucis quotidiens pour se mettre à l'écoute de la présence de Dieu en soi. C'est proposé par le centre spirituel Côte-Pays et c'est toute la journée de samedi de 9h30 à 16h30. Ça se passe à Sainte-Scolastique, qui est le monastère qui est juste à côté de l'abbaye de Belloc, où se trouvent maintenant les moines de Belloc, donc entre Pau et Bayonne. Il faut apporter son pique-nique, mais sinon c'est tout, ou un carnet, un crayon quand même pour prendre des notes. Donc n'hésitez pas à venir, c'est samedi toute la journée. Vous trouverez les coordonnées sur le site du diocèse dans notre agenda.
Les équipes Saint-Vincent à la paroisse Sainte-Thérèse de Pau proposent leur marché de Noël. Ça commence.
C'est tout le week-end, donc samedi et dimanche, ça se passe à la paroisse Sainte-Thérèse de Pau, 79 avenue Trespoil, un marché de Noël au profit de l'association des équipes Saint-Vincent. Les équipes Saint-Vincent, ce sont des équipes de femmes qui, donc selon la spiritualité de Saint-Vincent de Paul, s'occupent des plus pauvres. Donc il y aura de tout pour ce marché de Noël, des couronnes, des calendriers de l'Avent, des décorations de Noël, des tricots, des broderies, et puis aussi à manger des chocolats, des pâtisseries, des confitures. Donc n'hésitez pas à venir, c'est toute la journée de samedi jusqu'à 19h30 et toute la journée de dimanche jusqu'à 18h au 79 avenue Trespoil à Pau.
On passe à la semaine prochaine avec à noter jeudi prochain à Pau une conférence sur Sainte Mariam Bawardi.
Sainte Mariam Bawardi qui est fêtée en ce moment parce qu'il y a eu son jubilé, puis également les 150 ans cette année de la création du Carmel de Bethléem. Sainte Mariam Bawardi qui a vécu au Carmel de Pau, qui a vécu même une transverbération, elle est fêtée régulièrement à Pau. Et donc si vous voulez mieux la connaître, une conférence sera donnée jeudi prochain, 27 novembre à 20h30 à la salle paroissiale de l'église Sainte Bernadette de Pau. Une conférence qui sera animée par Monsieur Jean Led, donc sur Sainte Mariam Bawardi. On l'appelle aussi Sainte Marie de Jésus crucifié, cette sainte qui a vécu donc quelques années au Carmel de Pau, avenue Trespoil, qui maintenant est la maison Saint-Michel. Donc cette conférence aura lieu à l'église Sainte Bernadette de Pau jeudi prochain.
Et enfin, on termine cet agenda avec une retraite spirituelle. C'est pas ce week-end, mais le week-end prochain, du 28 au 30 novembre.
C'est une retraite donc qui est proposée au sanctuaire Notre-Dame de Bétaram, une retraite spirituelle du vendredi soir au dimanche, vendredi 28 novembre au dimanche 30 novembre. Elle sera animée par le père Fulgence Ngueta, qui est prêtre du Sacré-Cœur de Jésus. Le thème sera « S'ouvrir à la vie ». Espérer même quand tout semble perdu, donc avec des enseignements bien sûr, une veillée de prière, de veillée de guérison et de libération, messe. Donc tout cela aussi, vous pouvez retrouver les détails sur le site du diocèse. Donc pour cette retraite spirituelle proposée au monastère de Bétarame, donc le week-end du 28-30 novembre.
C'est là-dessus qu'on referme cet agenda, l'agenda du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, diocèse64.org, c'est le site internet. Il me reste qu'à vous remercier. Je rappelle que vous étiez en duplex depuis Bayonne et que vous êtes la responsable de la communication pour ce diocèse. Un grand merci, Violaine Ricourt-Dumas, et on se dit à très vite.
Merci à vous et très bonne semaine à vous.
Présence à foi. 100.2.
Midi et 11 minutes, bon appétit à l'écoute de Radio Présence avec à 12h30 le journal régional. Mais pour le moment, on retrouve Anne-Rose Jankovic et son invité.
Présence.
Bonjour sœur Véronique Marcon.
Bonjour à vous.
9 ans, vous avez été présidente de la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France pendant 9 ans. Deux mandats démarrés en novembre 2016, c'est-à-dire 4 ans avant la SIAZ. Et bien sûr, cela a son importance puisque la lutte contre les abus a marqué votre présidence, votre travail et sans doute votre vie. Mais la lutte contre les abus n'a pas été votre seule mission. Il faut dire également que vous avez été à la tête de la COREF à une époque où il a bien fallu considérer le vieillissement des congrégations religieuses. Vous avez mené des chantiers lourds. Alors, pardon de cette question qui va peut-être vous sembler un petit peu brutale pour commencer. Comment allez-vous ? Comment va la religieuse dominicaine que vous êtes, la théologienne, la femme d'église, après ces 9 années de travail et peut-être aussi un peu de combat ?
Tout cela. Comment je vais ? Mais foncièrement, je pense que je vais bien. C'est-à-dire que, vous savez, il a fallu, je ne sais pas si c'est traversé, car je ne sais pas si nous avons traversé, mais il a fallu affronter, bon, particulièrement, comme vous le disiez, la crise des abus et des violences sexuelles. C'est plus qu'une crise, d'ailleurs, hein, ce désastre. Et puis, évidemment, essayer le mieux possible de faire vivre la COREF. Mais j'ai rencontré des gens magnifiques, vraiment. J'ai rencontré des gens formidables partout, dans les responsables d'instituts, des gens donnés, des gens courageux, des gens qui font face à la réalité, des hommes comme des femmes, y compris parfois âgés, parfois jeunes, et qui prennent en charge ce que les prédécesseurs n'ont pas fait. Et c'est loin d'être facile, vraiment. Et j'ai rencontré plein de gens formidables, en dehors, évidemment, de la COREF, mais qui sont venus en soutien, à commencer par les membres de la SIAZ, par les membres de la commission reconnaissance et réparation, et beaucoup d'autres qui nous ont aidés durant toutes ces années. Donc, à vrai dire, je le disais aux membres de la COREF hier, j'ai d'abord beaucoup de gratitude, franchement. Le réel, il est ce qu'il est, donc il faut y faire face. Ça n'empêche pas, au contraire peut-être, d'être d'autant plus attentive pour moi aux femmes et aux hommes que j'y rencontre dans ce réel, et justement de pouvoir réaliser, j'allais vous dire presque admirer, contempler, qu'il y a vraiment des gens magnifiques, ce qui n'empêche pas de regarder tout ce qui ne va pas.
En novembre 2016, quand vous avez démarré votre premier mandat, novembre 2016, à cette époque-là, on est encore assez timide sur la lutte contre les abus. C'est le début des cellules d'écoute. Je crois que dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, si je dis pas de bêtises, c'est le début de la première cellule d'écoute. On est vraiment un peu aux prémices de cette lutte contre les abus. Est-ce que vous, en novembre 2016, quand vous prenez cette présidence de la COREF, vous vous attendez à ça ? Vous êtes préparé ?
Pas du tout. Pas du tout, moi, quand j'ai pris la présidence de la COREF, le président précédent, Jean-Pierre Longeat, qui est un moine, c'était lui le président de Ligugé, à côté de Poitiers, me dit, tu sais, Véronique, faut pas que tu t'inquiètes, c'est un petit tiers-temps. La présidence de la COREF, je dis bon, parce que j'étais provinciale, c'est-à-dire responsable de ma congrégation pour la France.
Vous êtes religieuse dominicaine, hein, voilà. C'est pas rien, quand
donc,
même.
Je l'étais depuis un an, donc vraiment tout me tombait dessus. Il fallait quand même que je visite mes communautés. Je me dis comment je vais faire. Il me dit, mais non, mais t'inquiète pas, c'est un petit tiers-temps. Alors, nous étions déjà quand même dans l'affaire Préna, mais elle n'avait pas d'incidence à ce moment-là sur les religieux, religieuses. Donc vraiment, moi, l'assemblée où j'ai été élue, je pense pas qu'une seule fois il ait été question d'abus. Vraiment.
Avec du recul aujourd'hui, vous ne vous dites pas, c'était quand même dingue qu'en 2016, on n'était pas capable à ce moment-là d'en parler.
C'était dingue. On n'était pas capable parce que je pense que la conscience de l'extrême gravité, du scandale que ça représente, n'était pas encore là. Et pour moi, c'est d'autant plus a posteriori, ça a un côté terrifiant, que je me suis occupée de mineurs en danger, que j'ai connu nombre de situations d'inceste, de vies ravagées, y compris de jeunes de 18 ans, 20 ans. Au moins un sur deux avait été victime d'inceste, au minimum, sans doute plus. Et personne de nous, au ministère de la Justice, à la protection judiciaire de la jeunesse, trouvait que tout ça, c'était vaguement normal et banal, hein, quand j'étais en poste, qui commence à remonter loin maintenant. Donc, si vous voulez, c'était... Aujourd'hui, je me dis, mais c'est quand même dingue que je suis élue en novembre. En janvier, je reçois des courriers de victimes. Il ne s'est pas passé 3 mois.
Et ça, ça a été l'élément déclencheur?
Oui, pour moi, oui, parce que je reçois des premiers courriers concernant un religieux que, évidemment, je ne connaissais pas, d'une congrégation dont je ne connaissais rien. Et des personnes, je ne les connaissais pas. Je propose de recevoir toutes ces personnes, évidemment. Hein. Bon, mais c'était une situation. Et puis d'autres courriers arrivent, des gens m'écrivent, qui me connaissaient ou qui ne me connaissaient pas du tout. Hein. J'avais une sensibilité à ces sujets-là, donc...
C'est pour ça qu'ils vous écrivaient, et aussi peut-être parce que vous êtes une femme et que...
Sans doute, que je suis une femme, je suis convaincue que ça a joué, parce qu'il n'y a pas de transposition d'image, forcément. Hein. Oui. Bon. Ça a sûrement, et au bout de 6 mois, je me suis dit, mais on ne va jamais y arriver. Enfin, c'est-à-dire, on ne va pas y arriver avec nos petits bras. On ne va pas y arriver avec notre bonne volonté.
Donc ça veut dire, très vite, vous vous rendez compte de l'ampleur que, c'est, que ça
alors,
a.
Pas du tout, comme ce qu'on a découvert avec le rapport de la CIAZ. Hein. Mais en tout cas, qu'on n'allait pas pouvoir faire au cas par cas. Oui. Que ça n'allait pas être possible. Je me rappelle, même pas un an après avoir été élue, j'ai proposé une journée de formation à des supérieurs majeurs, donc à des responsables d'instituts en interne, donc, où j'avais fait venir une psy, un juriste, mais c'est tout. Mmh. Vous voyez, donc c'était quand même encore un petit format. Mais voyant tout cela monter, moi j'ai essayé de faire un groupe de travail avec des experts.
Et à ce moment-là, vos interlocuteurs, ils vous disent quoi? Mais non, c'est de la folie, vous exagérez, on n'en est pas là. Non. Ou ils disent enfin, on rentre dans le.
Ils me disent ni l'un ni l'autre, hein, grosso modo. C'est-à-dire que. Il m'accompagne, quoi, plus. C'est-à-dire que personne me disait, c'est de la folie. Vraiment personne. Personne me disait, mais tant quoi on s'embarque, tu peux pas aller par là, on va être débordé. Pas du tout. Vraiment, personne ne m'a dit ça à la COREF. Vraiment personne. Du côté des experts, ils me disaient plutôt, écoute, bravo, il faut y aller, il faut prendre ça en compte. Parce que aussi, nous étions dans l'époque MeToo, donc c'est aussi des mouvements de société. Mmh. Et en fin de compte, c'est la conjonction qui nous a aidés.
Et oui, donc il faut pas mener cette lutte parce que c'est l'ère du temps et que ça va dans l'ère de MeToo, etc. Il fallait le faire pour des raisons fondamentales, en fait.
Ben, c'est-à-dire, il fallait le faire par obligation éthique. C'est-à-dire à partir du moment où vous rencontrez des femmes et des hommes dont les vies ont été pour certaines dévastées, pour les autres bouleversées au moins, pour certaines même fracassées parce qu'elles ont subi, qui est parfaitement ignoble et qui est un scandale humain, spirituel, puisque tous ces agresseurs se sont servis de la Bible, se sont servis de l'Évangile, se sont servis de leur position d'homme entre guillemets sacré. Donc vous pouvez pas dire mais je vais les écouter gentiment et ça va passer, c'est pas possible. Enfin, il y a une sorte de devoir impérieux de justice, de comment faire justice qui est fondamental au regard évidemment des exigences éthiques et au regard de l'Évangile plus encore. Donc comment vous dire, moi mon indignation elle est née dans ces moments-là. J'étais déjà indignée avant, donc sans doute ça m'a aidée, mais en tout cas sur ce sujet-là, elle est née là et elle est toujours présente. C'est-à-dire que je ne me remettrai jamais de cette indignation et je ne cherche pas à m'en remettre. Mmh.
Quand vous avez créé la commission...
indépendante.
La commission indépendante, l'objectif c'était quoi? C'était de pouvoir construire une justice qui répare?
Alors non. Le premier objectif c'était de voir ce qu'il en était. C'était
c'est-à-dire
d'oser regarder.
Un état des lieux ?
Un état des lieux, c'est-à-dire c'était de comprendre ce qui se passait. Puisque quand même, vous pouvez recevoir des victimes, enfin, vous avez quand même toujours une vision très partielle. Donc c'était de dire, tout d'abord, il faut qu'on comprenne l'ampleur, et qu'on comprenne pas seulement l'ampleur, qu'on comprenne pourquoi.
Pourquoi c'est devenu systémique?
Pourquoi c'est, alors, je suis pas sûre qu'on nommait cela déjà systémique. Je pense qu'on le doit à la SIAZ. En tout cas, on doit la dénomination systémique, cette compréhension-là, à la SIAZ. On savait, en tout cas, moi et d'autres, ou d'autres et moi, en écoutant les victimes, qu'il y avait eu des complicités. Ça, c'est sûr. Il suffit d'écouter une victime pour savoir qu'il y a des complicités. Parce que la personne vous raconte qu'elle a parlé à un tel qui n'a rien fait. Bon, ses parents, si elle était un enfant, qui évidemment lui a dit « tais-toi, on fait pas de mal au prêtre », la plupart du temps. Mais elle a souvent parlé à un prêtre ou à quelqu'un qui n'en a rien fait, à un supérieur religieux. Donc, vous voyez bien qu'il y a des complicités. De là à nommer ça absolument systémique, il faut quand même un peu prendre de
oui,
champ.
Et ça, c'est la SIAZ qui nous a aidé à le faire.
Donc, à vrai dire, le travail de la SIAZ, c'était surtout ça. C'était plus qu'un état des lieux. C'était comprendre, y avoir une vision en profondeur. Et comme nous avons demandé... l'archevêque de Marseille de l'époque était président de la conférence des évêques, Georges Pontier et moi-même, qu'en même temps ce rapport nous fasse des recommandations, c'est les recommandations qui après nous ont aidés à construire la question des commissions de réparation, de reconnaissance et de réparation.
Une justice qui répare, c'est quoi au fond? Comment on répare l'écoute, la prise en compte, ça suffit pas?
Alors d'abord, on répare en sachant qu'on répare pas. C'est ça la première chose. Enfin, vous ne pouvez pas réparer le malheur qui a été infligé à des personnes. Vous ne pouvez pas, parce que pour le réparer, il faudrait revenir en arrière, et ça, personne de nous ne le peut, bien sûr. Hein. Donc il faut quand même avoir cette conscience qu'il y a de l'irréparable. Le mal qui a été commis, il a été commis. Plus personne ne peut l'effacer. Personne au monde ne peut l'effacer. Ce que vous pouvez faire, tenter de faire, c'est restaurer quelque chose. Restaurer quelque chose... de l'estime de la personne elle-même, restaurer bien sûr quelque chose de la vérité qui lui est due, restaurer quelque chose de la capacité à comprendre ce qu'elle a subi et pourquoi ce qu'elle a subi est si violent, si injuste, et qu'elle est bien une victime, et qu'elle n'est pas une sorte de co-coupable, comme beaucoup de victimes, y compris des enfants victimes, le pensent, qu'elles ont provoqué, que... Donc, c'est tout cela... restaurer ou tenter de réparer quelque chose.
Et les victimes attendent vraiment ça de l'Église, c'est-à-dire qu'elles frappent à la porte de l'Église avec cette espérance qu'elles vont pouvoir trouver cette justice, en tous les cas cet acte de réparation, c'est-à-dire qu'elles frappent à la porte de l'institution qui les a cassées, qui les a blessées, qui les a détruites.
Alors ça, c'est une très bonne question, parce que pour beaucoup de victimes, c'est impossible, justement.
Mais oui.
Parce qu'on va pas chez son agresseur ou dans la maison de son agresseur, hein, pour espérer un peu de justice. Donc, d'où l'importance que nos commissions soient des commissions indépendantes. Que ce soit celle créée par les évêques, l'INIR, celle créée par la conférence des religieuses, la CRR, qui, bien sûr, sont financées par nous, qui les financerait. C'est pas l'État qui va financer nos commissions. Mais elles sont exactement dans la même situation que la SIAZ, hein. C'est-à-dire que nous les finançons, mais elles sont parfaitement indépendantes dans leur travail. Et c'est fondamental pour créer le lien de confiance avec les victimes. Alors, pourquoi moi, les victimes sont venues me voir, alors que par définition, j'ai découvert à cette occasion que je représentais l'Église. À vrai dire, c'est elles qui m'ont renvoyé cela, hein. Comme vous le disiez, sans doute parce que je suis une femme, peut-être parce que je sais peut-être un tout petit peu, je n'en sais rien, elles peuvent le dire, mais écouter, être, je ne sais pas comment dire, en co-humanité avec les personnes, que je ne suis pas là pour défendre l'institution en aucun cas, mais qu'en effet, en étant membre de cette institution, à une sorte de responsabilité symbolique, qui n'a rien d'hiérarchique, la COREF, mais moins symbolique, c'est comme si, j'ai bien vu que pour beaucoup de victimes, elles venaient en quelque sorte, en venant me voir, elles venaient dire à l'Église, là où précédemment elles ont essayé de le dire à l'Église et où l'Église a refusé d'ouvrir la porte, que ce soit un évêque, un responsable religieux, un prêtre, qui n'a jamais voulu ou les recevoir, qui n'a même pas répondu. Donc, je pense que c'est ces deux phénomènes. Et moi, je vois un certain nombre de personnes qui ont besoin de venir chez moi avant de pouvoir aller dans les commissions. Mmh. Comme s'il y avait la nécessité de déposer symboliquement dans un lieu d'Église. Avant d'entamer le processus. Puis pour d'autres, bien sûr, elles vont dans les commissions directement, heureusement.
Vous n'avez jamais été tenté par l'idée de protéger l'institution, dire bon,
ça,
il faut que je le gère bien, mais que je le gère dans mon coin pour protéger l'institution.
Ah non, jamais. Ah non, parce que c'est totalement contraire à toute mon éthique. Enfin, pour aucune institution. Enfin, c'est-à-dire que la protection de l'institution contre la vie d'une seule personne, ça n'est pas justifiable éthiquement. Donc, j'aurais fait la même chose dans une vie précédente. J'avais dû défendre une victime dans une université où je travaillais, qui avait été victime d'un cadre supérieur de cette université. Je me suis pas dit, il faut défendre la réputation de cette université. En aucun cas. Enfin, c'est-à-dire que vous pouvez, enfin, je sais pas si vous pouvez pas, mais moi, je peux pas réagir comme ça, quoi. Là.
Qu'est-ce qui vous a, je ne sais pas combien de victimes vous avez écoutées, entendues, accueillies, peut-être que vous le savez.
Je ne sais pas exactement, mais je suppose beaucoup plus que 200.
Comment vous avez fait pour, après nous allons marquer une pause, mais comment vous avez fait pour tenir en fait, pour pouvoir les entendre, pour pouvoir les écouter, pour pouvoir avoir un cœur toujours attentif à ces récits d'horreur?
Je pense que, en tout cas, la force pour moi, c'est que je ne me pose pas cette question. C'est-à-dire, je ne me dis pas comment je fais pour tenir. Je suis, j'ose pas dire une disciple parce que ça serait très prétentieux, mais en tout cas une lectrice d'Emmanuel Lévinas, qui est un philosophe qui écrit beaucoup sur la question du visage. Combien nous sommes assignés, c'est-à-dire nous sommes les obligés du visage de l'autre, nous sommes les obligés de la mort de l'autre. Et alors, je ne vais pas vous faire un baratin philosophique, je ne sais pas si ça vient de ma fréquentation d'Emmanuel Lévinas ou si c'est plutôt Emmanuel Lévinas rejoint ce que je vis. Mais en tout cas, c'est quelque chose de ça. C'est-à-dire, je ne me dis pas, mais comment je fais pour tenir? Après, il se trouve que, enfin, il se trouve, façon de parler, que par chance, justement, je suis religieuse, que je vis dans une communauté qui, je l'espère, se porte bien, ou en tout cas pas mal. Et donc, la vie ordinaire y est une vie qui équilibre. La prière ensemble, la vie fraternelle ensemble, ça ne vous met pas du tout à distance de ce que vous entendez et vivez intérieurement, hein, et la façon dont ça vous entame à l'intérieur. Mais comment dire, l'ordinaire est quand même aussi ce qui nous tient, quoi, ou ce qui nous contient. Donc je pense que ça m'a aidé d'être dans cette situation, d'avoir une vie commune durant toutes ces années, et d'être, autant que faire se peut, avec mes sœurs, pour une vie tout à fait simple et quotidienne.
On marque une pause, sœur Véronique Magron, on se retrouve dans un instant pour poursuivre cet entretien.
Merci Andros Jankovic, et cette pause on va la marquer avec le journal régional. Le journal est présenté aujourd'hui par Mathis Saint-Tenac de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse.
Bonjour à toutes et à tous. À Biars-sur-Cère, dans le Lot, Didier Pouche annonce son retour en politique à l'approche des municipales 2026. L'ex-adjoint au maire, absent depuis 5 ans, mène une liste d'hivers gauche déjà forte de 18 candidats. L'homme de 63 ans promet notamment une politique de proximité. Il affrontera la maire sortante Angèle Préville, ancienne sénatrice du Lot et candidate à sa réélection. À Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, le pivot de l'équipe de basket de l'Union Tarbes-Lourdes, Mike Joseph, vient d'être condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis pour trafic de drogue. Arrêté en octobre avec 124 grammes de cocaïne, le joueur de 31 ans explique à l'audience dealer pour nourrir sa famille. Le basketteur actuellement suspendu purgera sa peine en Guyane sous bracelet électronique. Il ne pourra plus séjourner dans les Hautes-Pyrénées pendant au moins 3 ans. À Nègrepelisse, dans le Tarn-et-Garonne, l'association Sine Qua Non organise ce dimanche une marche et une course contre les violences sexistes et sexuelles. 3 parcours de 3, 6 et 9 kilomètres seront proposés, accessibles à tous, y compris aux personnes en fauteuil. Accueil prévu à 9h30 au château, avec départ annoncé à 10h30. Toute la journée, des animations et des stands de prévention seront sur le site. Sur le même principe que le Beaujolais, le Gaillac Primeur 2025 débute ce jeudi dans le Tarn. Au total, c'est près de 500 000 bouteilles qui se retrouvent catapultées sur le marché, dont 80% de vin rouge. Tout le week-end, l'opération Chez Mon Vigneron proposera pour l'occasion randonnée, rallye dans les vignes, dégustation et visite de cave dans le département. En Ariège, près d'Ax-les-Thermes, le village d'Orlu cherche un nouvel exploitant pour son gîte d'étape dans le cadre d'une délégation de services publics. Le site propose 30 lits, un restaurant, un bar, une terrasse et un logement de fonction. Les candidats ont jusqu'au 5 décembre pour déposer une offre et un projet d'exploitation auprès de la mairie. La Haute-Garonne subit cette semaine son premier épisode hivernal. Depuis hier, une dépression s'abat sur le département. La neige est tombée à 800 mètres la nuit dernière et devrait tomber à 300 mètres ce jeudi. Les Pyrénées pourraient recevoir 5 à 10 cm. Pas de neige, en revanche, prévue à Toulouse, malgré les températures négatives annoncées demain matin. Ce premier épisode hivernal prendra fin, quant à lui, demain dans l'après-midi.
Effectivement. Merci, Mathis Saint-Tonac. Voilà pour l'actualité régionale. Mathis Saint-Tonac qui fait partie de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Voilà pour l'actu régionale à 13h. C'est l'information nationale et internationale avec la rédaction française de Radio Vatican. Dans quelques minutes, eh bien, on va retourner en 1858 avec l'auteur qu'a sélectionné cette semaine Anne Lasserre. Il s'appelle Charles Richard. Il a parcouru les Pyrénées d'ouest en est. On écoutera son récit aux alentours de 12h50. Mais pour le moment, la suite de Présence Midi, c'est toujours avec Anne-Rose Jankovic et son invité sœur Véronique Macron.
Présence à Montauban, 93.3.
Nous sommes toujours en compagnie de sœur Véronique Macron qui achève ses 9 années à la tête de la présidence de la COREF. Sœur Véronique Macron, on a beaucoup parlé du travail que vous avez mené pour lutter contre les abus. Ça a été un petit peu le travail qui a marqué vos 2 mandats à la présidence de la COREF. Mais il n'y a pas eu que ça. On va le voir dans un instant que vous avez eu d'autres choses aussi, d'autres chantiers à mener. Même une dernière question au sujet de la lutte contre les abus. S'agissant des congrégations religieuses, est-ce que les religieux et les religieuses ont compris assez vite ce travail, alors le travail de la CIAS, mais globalement cette lutte contre les abus, est-ce que au sein des congrégations religieuses, les personnes n'ont pas été un peu protégées au début de tout cela, en se disant bah, peut-être c'est pas notre affaire?
Au début, sûrement que si, bien sûr, hein. Vous savez, on pense toujours que ça va mal dans la maison du voisin, hein. Donc, je pense que pour un certain nombre, c'est dur, ça a été dur, sans doute que pour certains, ça le reste. Enfin, c'est d'une telle violence, intime, je pense à beaucoup de congrégations masculines qui ont découvert, en tout cas aujourd'hui, qu'elles ont abrité ou qu'elles abritent ou abritaient des prédateurs sexuels. Enfin, on parle de leurs frères, d'hommes avec lesquels d'autres frères ont vécu. On parle pas de gens loin. Donc tout ça, c'est des chocs psychiques et donc psychiques, spirituels. Donc il faut entendre ça. C'est-à-dire, si on veut les embarquer dans le combat. Il faut entendre aussi que ça peut être légitimement difficile parce qu'on n'est pas en train de parler de gens ailleurs qu'il faudrait combattre.
Donc vous avez vous avez eu à déployer du coup des solutions pour être attentif aussi aux frères et sœurs des prédateurs.
Autant que faire se peut, c'est-à-dire que ce qu'on a essayé de faire, c'est beaucoup de formation. Parce que ça aide quand même, hein. Donc la COREF a organisé de nombreuses formations pour les responsables d'instituts, pour les formateurs, à la fois évidemment sur les violences sexuelles, mais aussi sur les phénomènes d'emprise, d'abus spirituels, d'abus de pouvoir, bon, voilà, tout cela.
Tout ça c'était tabou avant, ou on pensait même pas que c'était nécessaire d'en parler.
Non, il n'y avait rien, enfin à peu de choses près, il n'y avait rien. Hein. Et puis on avait instauré une sorte de cellule de crise pour que les supérieurs majeurs en difficulté, les responsables d'instituts en difficulté, parce qu'il y a quelqu'un, un de leurs frères qui est mis en cause, est une sorte de cellule de crise qu'elle puisse appeler pour avoir un juriste, pour avoir un psy, pour avoir des conseils, surtout pas pour cacher quoi que ce soit et minimiser, au contraire pour faire face. Mais on ne fait pas face tout seul comme ça, enfin, à des choses que 5 ans, 6 ans avant, vous étiez à des années-lumière d'imaginer. Donc c'est vrai que, comment vous dire, on ne transforme pas les gens de force. on transforme les gens en les embarquant avec nous. Mmh. Donc, et moi, ce que j'ai admiré quand même de toutes nos assemblées générales, c'est que nous avons pris des décisions difficiles. 6 mois avant le rapport de la CIAZ, nous avons voté une résolution comme quoi nous reconnaissions la responsabilité institutionnelle de la vie religieuse. Et je peux vous dire que ça a été un débat magnifique, mais extrêmement grave. Pas du tout là, parce que les hommes n'auraient pas voulu reconnaître, mais parce que les sœurs, dont moi, qu'est-ce qu'on a fait durant ces années? On a découvert, en les écoutant, des sœurs de nos congrégations victimes. Et donc, quand vous avez découvert des sœurs victimes, est-ce que vous pouvez vraiment reconnaître votre responsabilité institutionnelle? Mais vous n'allez pas dire que vos sœurs qui ont été victimes ont une responsabilité. Enfin, ça nous posait des vrais cas de conscience. Et nous l'avons voté très largement. On avait voté, bien sûr, la CIAZ, le financement de la CIAZ, la CRR. Donc, franchement, je trouve que tout n'est vraiment pas fait. Et maintenant...
Qu'est-ce qu'il reste à faire, justement?
Il reste à faire de continuer. Et ça, c'est difficile. Commencer, peut-être il faut du courage pour commencer. Comme dit un autre philosophe de mes amis, si j'ose dire, qui est Vladimir Yankelevitch, hein, le courage, c'est le courage des commencements. Oui, mais il faut du courage pour continuer. Il faut du courage pour ne rien lâcher. Et pour moi... Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est ça.
Parce que ça pourrait recommencer. Vous pensez que si on manque de formation, d'attention...
Mais bien sûr. Parce que cette violence est tellement intime. La violence qui est faite par la découverte. Je ne parle pas de la violence que subissent les victimes, bien sûr. Celle-ci est très intime et totale. Mais la violence de découvrir dans sa propre maison, de découvrir des victimes, a fortiori, je pense, de découvrir des agresseurs, est telle qu'il y a toujours une tentation de dire « Non, j'efface. » Oui. Mais comme on le voit dans les affaires d'inceste, rappelez-vous quand même le rapport d'Edouard Durand. Ce rapport est extrêmement précis et dur, quand même. 160 000 enfants par an, 160 000 mineurs par an, dont l'immense majorité est victime d'inceste. On a ouvert une politique publique? Rien. Je ne crois pas que c'est parce qu'on est complètement bête. C'est parce que c'est tellement violent que c'est comme si on l'oubliait dans le moment où on l'apprend. C'est pour ça qu'il ne faut rien lâcher.
Donc ça, c'est de l'ordre du traumatisme. On enfouit et puis un jour ou l'autre, ça va ressortir.
Oui, y compris donc pour une société. C'est pas seulement la question du traumatisme, évidemment,
personnel,
le premier traumatisme.
C'est vrai aussi pour une institution.
C'est vrai pour
il y a un traumatisme collectif.
Alors, je sais pas si c'est un traumatisme ou si c'est... Oui, encore une fois, c'est tellement dur qu'on voudrait pouvoir passer à côté. Donc, pour moi, l'engagement d'aujourd'hui, c'est ça. Il faut continuer et c'est en continuant qu'on va découvrir aussi les pas suivants qu'il faut faire, dont un certain nombre de pas théologique, hein, de comprendre le caractère systémique lié à la religion. L'utilisation quand même des sacrements, l'utilisation de la parole de Dieu, l'utilisation de la place du prêtre ou du religieux, voire de la religieuse, ont été considérables dans les abus. Et ça, il faut qu'on comprenne pourquoi.
Sœur Véronique Magron, je le disais en introduction, vous avez eu, en plus de ce long chantier de la lutte contre les abus, un chantier qui n'est pas terminé, que vos successeurs vont devoir porter aussi, il y a eu d'autres sujets qui ont occupé votre présidence de la COREF. Je pense au vieillissement des congrégations religieuses. Alors, je voudrais savoir quelle a été la difficulté en la matière du vieillissement des congrégations religieuses. Est-ce que c'est le fait que elles vieillissent et que peut-être certaines congrégations vont s'éteindre doucement? Ou est-ce que c'est le fait qu'elles n'aient pas anticipé, qu'elles n'aient pas prévu?
Non, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que le fait de vieillir, le fait même pour un certain nombre d'ici quelques années de s'accomplir, comme on dit, hein, c'est-à-dire en fin de compte d'avoir terminé leur mission et de mourir, en soi,
c'est pas grave.
Enfin, il a jamais été dit que la vie religieuse aurait les paroles de la vie éternelle. La foi, j'espère là, que la circulation de l'Évangile, mais pas telle ou telle institution, y compris la mienne, dont je n'ai aucune envie évidemment qu'elle meure. C'est pas ça la question. Mais donc, bien sûr, non. Ce qui fait difficulté, c'est quand les congrégations en question n'ont pas anticipé.
Oui, c'est ça.
Et on peut avoir étonnamment une sorte de phénomène de déni un peu comparable à ce qu'on parlait auparavant. Mmh. Ou au nom, alors ça n'est pas au nom des mêmes raisons, hein, mais au nom de la générosité, on peut toujours. Non, mais oui, bien sûr, on n'a plus beaucoup de force. Mais tu sais, on est généreuse, on va encore y arriver. Mais oui, mais on va y arriver.
Et donc on s'embarque
mais...
dans des grands chantiers, on continue
à faire tout seul, ouais. On continue à tenir, mais à tenir quoi au bout d'un moment, parfois dans des grands bâtiments, parfois ouais. Avec des responsables d'instituts qui ont des âges très au-delà de canonique, qui n'en peuvent plus, mais qui par dévouement, par générosité, par don envers leurs frères ou leurs sœurs, et c'est magnifique cela bien sûr, mais continue, et du coup ça... peut entretenir le déni.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut accompagner ces congrégations jusqu'à ce qu'elles acceptent d'être, de rejoindre une autre plus jeune, plus dynamique, qui correspond peut-être plus à l'élan du moment ?
Alors non, ça on évite. Non, c'est-à-dire que l'idée, si vous voulez, pour prendre un terme cher aux soins palliatifs, c'est de mourir vivant. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, mais c'est pas parce qu'on est vieux, c'est pas parce qu'on n'a plus beaucoup de force qu'on n'est pas vivant. Mmh. Et c'est pas parce qu'on est vieux et qu'on n'a plus beaucoup de force qu'on n'est pas évangélique.
Et qu'est-ce qu'elles ont encore à transmettre, ces congrégations ?
Elles ont tout à transmettre de l'humanité qu'elles ont vécue, de la foi qu'elles ont vécue et qu'elles vivent encore. Moi, je vois des petites communautés de sœurs, de frères, c'est plus rare parce qu'il y en a moins, mais par exemple dans des EHPAD. Mais vous savez, c'est souvent magnifique, ouais. Parce qu'en fin de compte, ces femmes sont une présence d'humanité qui a souci des autres résidents. Alors qu'évidemment, elles sont percluses des mêmes douleurs, elles ont le même âge, les mêmes handicaps, mais il y a un souci d'autrui. De dire à l'aide-soignante, mais madame Intel, elle n'est pas venue déjeuner.
Parce que même dans leur vieillesse, elles sont toutes données.
Elles sont données, et dans leur vieillesse, elles ont toujours souci de l'autre, parce que c'est ce qu'elles ont fait toute leur vie en communauté. Mmh. Et ça, c'est de la transmission. Évidemment, ça peut paraître minuscule, ça l'est, mais c'est un poids d'humanité extraordinaire, de rendre compte que jusqu'à la fin, vous pouvez être tourner vers l'autre. Mmh. Ça, c'est magnifique. Et non pas replier, y compris quand le corps se replie. Mmh. Et bien involontairement, on aimerait bien le contraire. Mais, et ça, c'est magnifique. Mais pour que ce soit possible, c'est-à-dire pour que cette humanité puisse être là, ça suppose qu'on puisse les soutenir pour prendre en charge toutes les questions matérielles, les questions administratives, les questions économiques, parce que si elles se tuent à encore prendre ça en charge, mais elles ne peuvent pas justement être une présence de vie religieuse pleinement incarnée auprès des autres. Vous voyez, donc notre but à la Coref, c'est cela, c'est en fin de compte de les soutenir pour qu'elles puissent, si je me permets, garder le cœur de leur métier, quoi.
S'agissant des congrégations qui sont peut-être un peu plus jeunes, masculines ou féminines, et qui sont présentes dans des diocèses, il y en a plein encore, un
oui,
peu partout.
Oui, heureusement.
Quelle est leur place et leur rôle dans la vie des diocèses, mais je pense surtout à la vie des paroisses. Comment on trouve un équilibre dans cette présence religieuse, dans une vie paroissiale ? Et puis peut-être aussi la question, elle mérite d'être posée à un échelon différent, peut-être un peu au-dessus, en matière de gouvernance de l'Église, en fait. Quel est le rôle et le poids de la vie religieuse ?
Il est tout petit, hein. Enfin, sociologiquement, il est devenu tout petit, mais ça, c'est pas un problème. Enfin, c'est une réalité. Moi, ça ne me dérange en rien. Enfin, deux choses peut-être. La première, c'est que je pense qu'au niveau, local, enfin, au niveau de la vie des communautés, c'est vraiment là. Pour moi, le témoignage de l'Évangile, c'est que, comment vous dire, ça rend l'Évangile proche. Parce que l'immense majorité des communautés religieuses, elles sont en proximité avec des femmes et des hommes au quotidien. Dans la vie de la paroisse, dans la vie d'un quartier, dans une association. Il y a une sorte de coude à coude. Et je crois que, pour moi, c'est un des plus beaux témoignages, ça, que cette... Et pour moi, c'est une magnifique fécondité, parce que, comment dire, c'est une fécondité qui s'échappe par cette transmission d'humanité, quoi. C'est pas des grands discours, c'est rien de tout ça, mais c'est une sorte de coprésence, de solidarité ordinaire avec les gens. Pour moi, ça a un côté bouleversant, parce que il y a une force d'incarnation, oui, ordinaire, simple, qui ne se paye pas de mots, mais qui est dans le réel, quoi. Là aussi, je pense que les religieuses, quand même, on est habitué, parce qu'on l'est habitué dans nos congrégations, on fait face à la réalité telle qu'elle est, donc on va pas ni en être amer, ni je sais pas, bon, c'est une réalité, donc on fait avec ce que nous sommes aujourd'hui, et franchement, cette réalité peut être aujourd'hui, avec nos propres fragilités, très heureuse. Et je pense que, pour moi, c'est ça qui compte, parce que tant qu'elle est évangélique,
oui,
c'est ça qui compte, c'est ça qui lui donne sa densité. C'est pas d'être 1000 là où nous étions 10 000, ou de se retrouver à 100 là où nous étions 1000, ou franchement, mais l'évangile est loin de tout ça, et Jésus n'a pas converti toute la terre entière quand il s'est incarné, loin s'en faut, ni même à sa résurrection. Donc c'est pas ça la question. La question, c'est le poids d'évangile dont réellement nous sommes témoins là où nous sommes. C'est ça notre obligation.
Sœur Véronique Magron, après 9 ans à la présidence de la COREF, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Vous avez sans doute plein de sollicitations dans tous les sens. On rappelle que vous êtes dominicaine, donc vous avez quand même une vie religieuse à mener avec vos sœurs. Mais qu'est-ce que vous allez, quel chantier vous allez mener ?
Je ne sais pas. Pour le moment, il se trouve que je suis toujours responsable de ma congrégation pour l'Europe et pour le Moyen-Orient, et que peut-être je vais avoir un peu plus de temps déjà pour visiter les sœurs, ce qui va leur faire tout chose d'un seul coup de me voir plus longtemps. Peut-être tout simplement pour le moment alléger un peu la barque et les choses venir, ne pas prendre des décisions trop rapides. Et voilà, donc les sollicitations, c'est très très gentil, ça me touche beaucoup, vraiment, profondément.
Mais vous allez vous laisser le temps.
Mais je vais me laisser le temps de réfléchir, comment dire, de décanter un peu aussi, parce que ces années ont été très intenses. Encore une fois, au milieu de tous ces drames, elles auront été aussi magnifiques, parce que j'ai rencontré des gens magnifiques partout, y compris chez tant et tant de victimes, j'ai rencontré des gens magnifiques. Donc cela, j'ai une dette immémoriale, vraiment, que je ne pourrai jamais solder, et que je ne cherche pas à solder. Donc je pense qu'il faut que je laisse un peu décanter, et que je vais me laisser le temps de voir.
Merci beaucoup d'être venue au micro de Radio Présence, sœur Véronique Magron. Vous qui étiez donc à Lourdes cette semaine pour le rassemblement de la COREF, et donc c'est à cette occasion que votre succession va être élue.
Absolument.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Présence à Luchon, 94 FM.
Bonjour Anna Lasserre.
Bonjour Philippe.
Alors, on l'avait déjà révisée l'autre jour, donc là, elle est pratiquement au point maintenant, cette machine à remonter le temps, puisque nous allons l'emprunter aujourd'hui pour suivre un écrivain anglais qui est né en 1858, ou une date qu'on connaît bien, Lourdes.
Oui.
Qui parcourt les Pyrénées.
Il s'agit de Charles Richard Weld, et qui a déjà publié, quand il vient, de nombreux récits de voyage, et puis il va parcourir les Pyrénées, lui, d'ouest en est, et ce sera un autre récit de voyage.
Il a donc l'habitude de voyager. Alors il faut croire que la diligence qu'il emprunte pour aller à Toulouse et à Foix est aussi vieille qu'il le dit, car il la trouve bien peu confortable. Et pourtant, il monte dans le coupé où sont les places de luxe.
Le coupé, Philippe, j'ai bien vérifié, est à l'avant de la diligence et comprend généralement 3 places. On y respire moins la poussière que la diligence soulève, et on a une vue relativement étendue. Au milieu, il y a l'intérieur ou la berline, et à l'arrière de la diligence se trouve la rotonde.
Les diligences sont tirées par 4 chevaux et se déplacent assez lentement. Parti le soir de Toulouse, il arrive à Foix à 4h du matin.
En 1843, Philippe, quand Victor Hugo, dont nous avons parlé, vient dans les Pyrénées, il fallait compter une 15aine d'heures pour aller de Bordeaux à Bayonne. Elle se déplace donc bien lentement, comme vous l'avez dit.
Et avant de monter dans la diligence, nous allons faire un petit tour à Toulouse en 1858. On vous écoute, Anne.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Charles Richard Weld a parcouru les Pyrénées d'ouest en est il y a exactement 160 ans, car c'était en 1858. Il est un des rares écrivains britanniques à avoir parcouru la chaîne, de l'océan à la Méditerranée, du Pays Basque au Roussillon. Il parle le français pour avoir séjourné pendant son jeune âge en France, dans un château près de Dijon. Quand il parvient à Luchon, il se dirige vers Toulouse avant de gagner l'Ariège. Et voici ce qu'il écrit. Bien que ce soit une ville où règne l'abondance, Toulouse n'est pas un lieu de séjour désirable. Les rues sont balayées par des rafales de vent qui soulèvent de denses nuages de poussière, apportées depuis la plaine sablonneuse, et qui rendent l'atmosphère aussi sombre que celle d'un jour de brouillard à Londres. Des orages d'une intensité extraordinaire sont aussi très fréquents. Tandis qu'un matin, j'étais en train de dessiner sous le mur d'une église désaffectée, je fus presque renversé par un coup de tonnerre d'une violence si grande que pendant un instant, j'imaginais que toute l'artillerie, y compris le magasin à poudre, avait explosé d'un seul coup. Ce phénomène ne s'était cependant pas produit bien loin, car en prenant mon petit déjeuner à la table d'hôte, j'entendis dire par des officiers que la foudre était tombée sur l'angle d'un bâtiment dans la cour de la caserne, près de l'endroit où j'étais en train de dessiner. Pendant l'été, la chaleur convient beaucoup mieux aux insectes qu'aux êtres humains. Il y en a en abondance et de toutes les espèces. Les brillants cafés de la place du Capitole étaient remplis le soir par ce que Cuvier aurait appelé une effroyable richesse d'élégants papillons blancs qui couraient à leur propre perte en se précipitant dans les nombreux jets de gaz et dont les restes calcinés recouvraient littéralement le sol. Donc, ma curiosité satisfaite, j'avais hâte de me retrouver à nouveau parmi les montagnes. Et après avoir envoyé mes bagages les plus lourds en train jusqu'à Narbonne, je quittais Toulouse le soir, pour Foix, dans une diligence qui avait dû être construite au temps de mes grands-parents. J'avais loué un siège dans le coupé, et comme celui-ci était loin d'être spacieux, j'étais assez anxieux de voir qui allaient être mes compagnons de voyage pour la nuit. Un monsieur était déjà assis dans un coin et un officier vêtu d'un manteau de voyage occupait l'autre. La perspective n'était guère engageante car ce dernier était en train de fumer un cigare colossal de très mauvais tabac. Craignant qu'il n'eût l'intention de fumer pendant toute la nuit et ne pouvant absolument pas supporter le tabac dans un lieu clos, je pensais qu'il valait mieux protester tout de suite contre une telle pratique. Ma requête n'ayant pas été acceptée, je cherchais le conducteur et lui demandais d'interdire de fumer dans le coupé. À peine avais-je prononcé ces mots que notre guerrier sauta de la voiture dans un grand état de rage et une altercation s'ensuivit qui me laissa à penser qu'il avait le désir d'utiliser un instrument plus acéré que sa langue. Je m'en tins cependant à ma résolution de ne pas avoir de fumeur dans le coupé. La colère de l'officier finit par se calmer et il se contenta de pousser quelques grognements indistincts pendant le reste de la nuit. Après m'avoir bien secoué et m'avoir fait faire un voyage bien désagréable, la diligence branlante, à ma grande surprise, me déposa à Foix sain et sauf à une heure froide et lugubre, à 4 heures du matin. Ce ne fut pas sans quelques difficultés, car il faisait toujours nuit, que je trouvai l'hôtel du Rocher de Foix. Je réveillai un garçon qui dormait en donnant de vigoureux coups sur la porte. Et, quelques minutes plus tard, je me retrouvai dans un très grand lit, placé dans une très grande pièce à l'aspect mystérieux, où je m'endormis aussitôt. Lorsque je me réveillais, comme tout avait changé en quelques heures, mon logement était inondé de soleil. Et après avoir ouvert les fenêtres, je vis le pittoresque château de Foix avec son majestueux donjon perché sur un rocher, juste devant moi. Au-dessous de curieux vieux bâtiments se pressent les uns contre les autres, entre le rocher et les flots écumants de l'Ariège. Tandis que derrière, s'étendant à perte de vue, s'élevaient les majestueux sommets de la partie orientale des Pyrénées. Le département dont Foix est le chef-lieu tire son nom de la rivière Ariège ou Auriège, Auriféra, comme on l'appelait jadis à cause de l'or trouvé dans les sables de son lit, en particulier entre Campugnac et Foix. Au milieu du siècle dernier, on extrayait de la rivière une quantité de métal précieux suffisante pour donner du travail à de nombreux chercheurs d'or. Un auteur français parlant, au début de ce siècle, de la richesse minérale des Pyrénées dit « Cet or est à 22 ou 23 carats. On le vendait autrefois 80 francs l'once à la monnaie de Toulouse, qui en recevait jusqu'à 200 marques, environ 1800 onces de Troyes, chaque année. Je dis « autrefois » parce que les orpailleurs sont maintenant, en 1811, moins nombreux. On paraît s'être dégoûté d'une profession qui ne produit que 20 à 30 sous par jour, sauf dans des circonstances très rares où quelques ouvriers gagnent beaucoup plus. Il y avait, bien entendu, de nombreux sujets de croquis à Foix. Mais avant d'ouvrir mon carnet de dessins, il fallait penser au petit déjeuner. Je le pris en compagnie d'une demi-douzaine de Français mal élevés qui, comme ils étaient aussi affamés que moi, m'obligèrent à me démener pour obtenir une part équitable des plats. En pareil cas, la discrétion risque fort de vous faire mourir de faim. Vous devez donc imiter vos voisins et vous servir. Même si Charles Richard Weld a 45 ans lors de ce voyage, on songe en le lisant à l'adage « Les voyages forment la jeunesse ». Il lui faut affronter à Toulouse le vent, les orages, les myriades d'insectes, en diligence, les voyages nocturnes peu confortables. À Foix, les Français mal élevés. Le passage retenu est extrait d'un ouvrage écrit par Charles Richard Weld, ouvrage intitulé « Les Pyrénées d'Ouest en Est », ouvrage publié par les éditions Loubatière en 2003, mais dont la première publication date de 1859.
À mon avis, Anne, il n'a pas dû donner à ses contemporains l'avis de visiter Toulouse. Toulouse, alors d'après lui, ressemble à Londres, un jour de brouillard. Il y a un vent violent et des orages encore plus violents.
Et Philippe, la ville est infestée d'insectes. Oh. Le soir, le sol en est couvert.
Quand il arrive à Foix, il évoque que les chercheurs d'or, les orpailleurs, une partie de l'Ariège depuis le nord de Foix jusqu'au nord de Pamiers, a longtemps attiré donc ces chercheurs d'or.
Oui, c'est une rivière aurifère en cette partie du côté de Foix, et l'orpaillage était certainement pratiqué en Ariège déjà, Philippe, à l'époque gallo-romaine. Et au XVIIIe siècle, il y avait en Ariège une cinquantaine d'orpailleurs.
L'hôtel des Monnaies de Toulouse enregistrait chaque année à peu près 50 kilos d'or en provenance uniquement de l'Ariège.
Oui, 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 ouais. Ce qui me semble énorme. Et l'auteur cité par Richard Weld évoque 1811-3 d'or, et l'once 3, dont le nom vient de la ville de Troyes, pèse un peu plus de 31 grammes.
Alors, de nos jours, un article de journal nous apprend que l'on a trouvé une pépite de 1 gramme dans l'Ariège.
Oui, de temps en temps, on peut lire ça dans le journal. Donc.
Le journal local.
Oui,
il y a toujours de l'or à l'Ariège.
Oui, qu'il y a toujours un petit peu d'or, mais bon, ce n'est des petites quantités, apparemment. Et je crois que l'on peut suivre en Ariège, d'ailleurs, des stages d'orpaillage.
Ah, ça doit être sympathique,
oui.
Ça. Et puis oui, voilà. La semaine prochaine, nous irons. Alors là, on n'y a pas été souvent. Je crois même que c'est la première fois. Nous allons aller au Val d'Aran. Pourtant, ce n'est pas si loin de chez nous.
Non, ce n'est pas loin, mais nous n'y sommes effectivement jamais allés. Donc, il faut réparer cette... cette erreur, cet oubli.
Cet oubli, voilà. Donc, nos amis espagnols seront à l'honneur. Et puis, cette Val d'Aran, pour aller à Val d'Aran, oui. On passe souvent par la vallée de Barousse.
Oui.
Qui est très jolie
qui
aussi.
Qui est très belle, oui.
Qui est très, très belle, la vallée de Barousse. Et bon, voilà, notre destination pour...
Présence à Montrégeau, 94.1.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Léon XIV a clôturé ce matin l'assemblée plénière de la CEI, la conférence épiscopale italienne, depuis Assise. Le pape a